Quand le roi Saul ou Saül, le premier roi d'Israël, est tombé en disgrâce devant Dieu, qu'il a perdu la grâce de Dieu pour avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, pour lui avoir désobéi. Le Seigneur a appelé le prophète Samuel et il l'a envoyé à Bethléem où vivait Jessé. Jessé qui était le père de 7 garçons. Et en fait, il y en avait un 8e dont le nom est David. Mais Dieu a simplement dit à Samuel, « Je me suis choisi un roi parmi les fils de Jessé. » Et il l'envoie. Et Samuel est inquiet. C'est une mission qui est risquée parce que le roi Saül est toujours en poste. Elle a tout, cette mission a tout pour lui déplaire, c'est pas lui qui l'a commandé. Et Samuel proteste, il dit, non, je peux pas faire ça. Le roi va l'apprendre, il va me tuer. Le Seigneur lui dit, tu vas prendre avec toi une petite bête de bétail pour un sacrifice. Et tu vas dire, c'est pour faire un sacrifice au Seigneur que je suis allé, et tu emmèneras Jessé avec toi pour faire ce sacrifice. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à faire. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Jésus dit la même chose à ses disciples. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Moi, je vous envoie. Et quand Samuel est arrivé à Bethléem, c'était le prophète du roi. Les habitants étaient inquiets, ils ont envoyé une délégation d'anciens, comme ça se faisait à cette époque. À sa rencontre, ils sont venus tout tremblants, ils lui ont dit, mais littéralement, est-ce que ta venue est de bon augure, prophète? Est-ce que tu viens avec de bonnes intentions? C'est la question que nous pourrions poser à tous les étrangers qui viennent. Est-ce que vous venez avec de bonnes intentions? Eh bien, elles dépendent très souvent, voire la plupart du temps, de nos propres intentions à leur égard. C'est réciproque. Quand nous disons bonjour plusieurs fois par jour, mais à chaque fois, la première fois, nous espérons, bonjour ça veut dire, nous espérons que notre rencontre va être le signe, c'est le signe que ça va être une bonne journée pour l'un comme pour l'autre. Et en hébreu, shalom, la paix, c'est encore plus parlant, c'est ce que nous signifions quand nous tendons la main droite, nue, c'est-à-dire désarmée, nous l'offrons en geste, en signe de paix. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord la paix à cette maison. Et on pourrait dire à toute personne que vous rencontrez, offrez d'abord la paix parce que c'est ainsi que le Seigneur vient nous visiter. Le Seigneur nous visite toujours en nous offrant la paix. C'est ainsi qu'il est venu visiter et sauver son peuple. C'est ce que nous chantons chaque matin dans le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, qui le rachète, c'est-à-dire qui le délivre de l'esclavage. Le contraire de la paix, on peut dire toujours c'est la guerre, c'est l'esclavage. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, mais il y a un autre Zacharie qui est un prophète, dont nous rappelons chaque année l'oracle au dimanche des Rameaux, au début de la Semaine Sainte, lorsque on lit dans l'Évangile, « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, monté sur une ânesse, un ânon modeste. Il est le roi de la paix, ce n'est pas un guerrier. Et le peuple entier le comprend. Hosanna au plus haut des cieux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. » C'est ce que nous signifions à chaque messe par la procession d'entrée. C'est la venue de la paix. C'est ce que nous espérons tous. Cette entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une des grandes scènes d'enthousiasme de la Bible, de l'Évangile même. Et c'est le sujet de l'Évangile de ce jour, l'enthousiasme des disciples. Ils reviennent, enthousiastes, joyeux, émerveillés. Les esprits s'est soumis en ton nom et ils nous obéissaient. L'enthousiasme de l'Esprit Saint. Alors, ces disciples, il faut imaginer qu'ils ne sont pas partis sans appréhension. Déjà, nous, quand on a un voyage à faire, ça dépend des caractères et des personnalités, on ne sait pas. Mais là, c'est une mission qui est risquée, il faut imaginer l'époque. Et ils disent, pourquoi nous envoyer deux par deux? On pourrait rester groupés, ensemble, avec un sentiment de force. Non seulement ils sont partis avec appréhension, ils ont été accueillis, et le texte le comprend, et nous le vivons tous les jours avec circonspection. Est-ce que votre venue est de bon augure? Est-ce que vous venez avec de bonnes intentions? Pensez-y dans tous nos déplacements cet été, dans toutes les personnes que nous rencontrerons. L'inquiétude, elle est naturelle, elle est surtout réciproque. Auprès des étrangers. Surtout quand ils n'ont pas d'argent et que vous en avez, ou qu'eux ont de l'argent et que vous n'en avez pas. Quand il y a ce décalage. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé en terre promise, au port de la terre promise, en terre de Canaan, il venait de passer 40 ans au désert. Dieu a dit à Moïse, tu envoies une mission de reconnaissance. Il a envoyé une mission de reconnaissance. Ils sont revenus émerveillés. Ils lui ont dit, c'est dans le livre des Nombres, nous sommes allés dans le pays où tu nous envoyais. Waouh, génial! Il ruisselle de lait et de miel. Une merveille, c'est vraiment la terre promise. Et puis très vite, la réalité prend le dessus. Il dit, oui, mais les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, on a même vu des géants. Et nous, on se faisait l'effet de sauterelle à côté d'eux. Tout de suite, ils oublient la richesse, l'offre de Dieu, ils ne voient plus que les difficultés, comme nous-mêmes. Alors, ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des serpents et scorpions dont il est question dans l'Évangile. Et le Christ le dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de les écraser. À l'époque, et il faut bien comprendre ça, on mange les sauterelles. Petite sauterelle grillée. Et on écrase les scorpions. Et les serpents. C'est comme ça qu'on représente la Vierge Marie le plus souvent, foulant à ses pieds, écrasant l'antique serpent. Et c'est pas pour rien qu'elle est le modèle de l'Église, modèle de confiance, d'enthousiasme, le corollaire de la confiance. L'enthousiasme, c'est un mot qui veut dire en Dieu, entheos, en Dieu, encouragé, inspiré par Dieu. On dit aujourd'hui une admiration passionnée. C'est bien plus que ça, c'est ce qui est présent au début de nos célébrations. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, si ce n'est pas l'enthousiasme. C'est une passion qui nous élève, qui exalte, qui exulte de joie. C'est le Magnificat de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Voyez comment, de quelle façon nous, disciples du Christ, fidèles du Christ, on manque quand même souvent d'enthousiasme. Première lecture dit, réjouissez-vous, vous qui aimez Jérusalem avec toute la symbolique qui entoure Jérusalem, la cité sainte, vous qui l'aimez, soyez dans l'allégresse, vous qui la pleuriez, qui la regrettiez. L'enthousiasme, c'est un des signes de la communion trinitaire. C'est la présence divine. C'est Jésus qui, sous l'action de l'Esprit Saint, exulte de joie et qui bénit son Père. Béni sois-tu, Seigneur, d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux savants, ce que ont refusé tous les jaloux, les grincheux, les mesquins, les rabat-joie. Ça, tu nous donnes de l'annoncer à tous ceux qui sont prêts à l'entendre. La paix qui vient de Dieu. Et dans notre esprit, particulièrement, dans notre culture occidentale, on n'aime pas beaucoup l'enthousiasme. On se dit, il n'est pas possible de concilier les deux, la paix et l'enthousiasme. Nombre d'écrivains ont cherché à montrer que l'enthousiasme, qu'il soit patriotique, politique, même religieux, peut conduire à la guerre. Ça date probablement du siècle des Lumières. Un philosophe anglais, David Hume, qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur le sujet, qui a analysé les guerres civiles d'Angleterre, justement sous cet angle d'un enthousiasme religieux perverti. S'il y avait un livre à lire cet été, que vous n'avez pas encore lu, c'est le livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, à l'heure où il faut reprendre la conscience de l'Europe. Mais lui, il a cette vision de la guerre de 14 qui serait la résultante de l'enthousiasme patriotique. Mais quand nous parlons, nous, d'enthousiasme, nous parlons d'amour, nous parlons d'une énergie naturelle, divine, qui ne vient pas de produits artificiels, qui ne vient pas de ce qu'on peut boire, fumer ou autre, qui ne vient pas même pas de musique à fond, de sons excessifs ni de transe. Lorsque le prophète Élie a été confronté au faux prêtre de Baal, il y a eu une sorte de non pas de compétition, il y a eu une mise en présence. Les faux prêtres de Baal sont rentrés dans les transes et sons, ils ont hurlé en plus fort encore et encore, ils sont même tailladés la peau. Et puis Élie, il a dit, sur l'autel du sacrifice, vous allez verser de l'eau, plein d'eau. parce que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et il a prié, il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob, qu'on sache que tu es le seul Dieu, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, c'est toi qui convertis les cœurs. C'est pour ça qu'on peut partir en mission, tranquille, c'est Dieu qui convertit les cœurs. Avec force et douceur, par l'Esprit Saint, qui nous demande d'aimer jusqu'à la limite qui est opposée par la liberté intérieure de l'autre. Si celui que vous rencontrez est un ami de la paix, et vous, un messager de la paix. Si celui que vous rencontrez est un ami de l'amour, et vous, un messager de l'amour, alors la paix, l'amour s'installera, le respect. Mais sinon, pourquoi rester ? Pourquoi rester dans l'hostilité ? Allez ! Voilà ce que dit le Seigneur. L'enthousiasme, elle fait partie de la paix que le Seigneur nous donne. C'est la promesse de la vie éternelle, l'enthousiasme. L'émerveillement infini. Vous verrez, dit Isaïe, votre cœur sera dans l'allégresse, vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fait connaître sa puissance, une puissance de vie, l'enthousiasme de l'esprit.